Pour cette seconde partie de ce 15e de Radio Barque, Michel, le sommaire prévoit que nous parlions, bien évidemment, parce que la semaine n'a parlé que de ça, de la LGV.
Oui, j'ai intitulé...
Enfin, de LGV.
Oui, de LGV, parce que c'était hier, hein, c'était jeudi, Philippe Duron, qui est un ancien député socialiste et qui préside le Conseil d'orientation des infrastructures, a remis enfin son rapport au ministre des Transports sur les projets laissés en suspens depuis les différents gouvernements de la Ve République, de droite et de gauche d'ailleurs.
Oui, parce que ça remonte loin.
Ah, très très loin, qui étaient en suspens, donc ces grands projets d'infrastructure, par faute de financement, tout simplement. Et donc le président Macron avait demandé à son gouvernement, à Édouard Philippe, de faire un point sur la situation.
Une vraie synthèse,
et lui-même a demandé à Philippe Duron, qui est un sénateur et député particulièrement informé de la question, de faire un état des lieux. Ça a été remis jeudi, et les conclusions de ce rapport, qui se fondent sur trois scénarios correspondant en fait à des augmentations financières de l'État, qui serait mise sur la table pour le mandat qui vient et qui correspondent pratiquement à 25% de plus que la moyenne des investissements faits pendant la période 2012-2016, premier scénario, ce qui correspond à 48 milliards, quoi, hein. Un second à 55, ce qui correspond à 60 milliards, et puis un troisième à 80 milliards. Donc Macron dit, Buron dit, si l'État met 48 milliards de plus par rapport au gouvernement précédent sur la table, 60 ou 80, voilà ce que l'on peut faire. Et en termes de priorité. Et il dit, on va se limiter à notre région, hein,
pour l'auditeur narbonnais de...
Et pour la région Occitanie, donc, seule la LGV, et encore, je vais apporter des précisions, Bordeaux-Toulouse est considérée comme prioritaire par Duron et son conseil.
D'accord. C'est-à-dire que le chaînon manquant ne l'est pas.
Je vais y arriver. De sorte que si l'on retient le scénario 2, qui est le plus probable, donc l'État mettrait 60 milliards de plus que les gouvernements précédents sur la table pendant les 20 ans qui viennent, donc si on s'en tient à ce scénario 2, qui est certainement le plus probable, ce ne serait, enfin parce qu'il faut être précis, quoi, que la section Agen-Toulouse qui serait retenue. Et encore, pas la LGV. Les nœuds ferroviaires, c'est-à-dire les gares. Enfin, on commence d'abord par les gares et les nœuds, avant effectivement de faire les... Parce que on a bien vu avec le Saint-Lazare ce qui s'était passé. Bon, quand on ne traite pas effectivement les gares, après, c'est le foutoir complet. Donc voilà. Mais, et c'est ça qui nous interpelle le plus, on fera ça, dit-on, l'État pourrait faire ça, mais à une condition. Ben, c'est que d'abandonner le Montpellier-Perpignan. C'est l'un ou c'est l'autre.
Hein, c'est l'un ou c'est l'autre. Là, c'est plus que cornélien comme choix.
Alors, voilà ce que Duron dit, à la ministre, la même ministre qui va réfléchir à ce rapport, qui n'est pas forcément obligé de reprendre ses conclusions, évidemment, et qui après, et donc le gouvernement établira un projet de loi en fonction de ces analyses gouvernementales, et ensuite, c'est le Parlement qui tranchera en dernière instance sur la programmation, et avec les financements à la clé. Hein. Ce qui veut dire, pour aller très vite,
concrètement,
le chaînon manquant Montpellier-Perpignan est renvoyé dans 20 ans au mieux.
Au mieux, voilà, au mieux. Cela dit, comme ça fait déjà largement 20 ans qu'on en parle, c'est presque un roman d'Alexandre Dumas, 20 ans après.
Quand même, c'est pas que je veuille rappeler ce que je disais et ce que j'ai dit à plusieurs reprises, il y a déjà plusieurs mois en arrière, y compris pendant la campagne.
On a déjà évoqué ce sujet.
Y compris pendant la dernière campagne régionale, quand je faisais observer que sous, effectivement, la communication de Réseau Ferré de France et des élus sur, ça va se faire, etc., je disais, non, ça se fera pas. Ça sera au mieux dans 20 ans.
Il y avait soyons clairs.
Philippe Durand dit la même chose,
Pour parler café du commerce, il y avait le blabla, mais il n'y avait pas le fric.
Il n'y avait pas l'argent.
Voilà. Malheureusement. Et là, il faut quand même rester réaliste à ce sujet-là. Le deuxième sujet que tu nous proposes, Michel, je le reprends in extenso et littéralement, législative partielle dans la 8e du 31. Explique-nous quand même. Voilà.
Il se trouve que le
député... Le 31, c'est le département. C'est pas le costard de Bourgie.
Non,
il se met sur son 31,
c'est le département de la Haute-Garonne. Et la 8e, c'est pas n'importe quelle circonscription, en fait, de la Haute-Garonne.
Voilà.
C'est, je dirais, le fief de la présidente de la région, Carole Delga. Carole Delga. Et il se trouve que le seul député socialiste qui avait été élu aux dernières législatives de la région Occitanie, a été invalidé. Hein, par le Conseil constitutionnel, de sorte qu'on est obligé de
repartir,
de mettre dans les urnes. Alors, c'est non seulement une inscription symbolique, hein, c'est le seul député PS sortant qui a été élu, puisque sortant c'était Carole Delga, hein, mais donc c'est le fief de la présidente de la région. Donc symboliquement, c'est quelque chose de très important. Et il se trouve que
comment ça se présente?
Le candidat d'En Marche est un ami. Je dévoile de Didier Codorniou, en fait, un rugbyman, quelqu'un qui était dans le monde du rugby, que connaît bien Didier, que les radicaux de gauche, sans le dire, ils sont bien coincés quand même dans le coin, ne disent pas qu'ils le soutiennent, mais de fait, ne disent pas le contraire, en fait, hein, et c'est là que l'information importante, c'est que dans cette circonscription, pour la première fois dans l'histoire politique nationale et de cette circo en particulier, l'UDI, composante des républicains, qui a toujours été alliée effectivement aux républicains dans toutes les élections nationales et locales, son président Lagarde a annoncé il y a quelques jours à peine que sur la 8e, il voterait candidat En Marche.
Alors, est-ce que c'est l'effet Wauquiez, ça?
Alors, il le prétend. Mais il est coincé un peu, M. Lagarde, parce qu'il dit jamais je n'accepterai la ligne de M. Wauquiez. Et donc, il commence à émettre quelques signes dans le style si vous ne me retenez pas, je vais carrément finir effectivement du côté d'En Marche. Et comme il y a bientôt des élections européennes pour lesquelles le président de la République a l'intention de revoir un petit peu la manière de fonctionner et d'établir des listes nationales en proposant dans sa liste à lui, En Marche, toutes les composantes de droite et de gauche européennes. Si vous me retenez pas, dit Lagarde en envoyant ce message sur la 8e circonscription, j'irai effectivement aux européennes avec monsieur Macron. Donc, on en est là.
Ouais, c'est quand même un pavé dans la mare.
Politiquement, deuxième, ça c'est une première information politique sur ce qui se passe dans la région. La deuxième, qui est passée sous silence dans la presse, quasiment, c'est que le groupe Nouvelle Donne de la majorité de Mme Delga, composée du Front de Gauche, des occitanistes de M. Onesta, d'anciens et d'élus de la France insoumise, a éclaté. Alors, une manœuvre un peu bizarre, en fait, que j'ai pas très bien comprise, mais toujours est-il que les quatre élus, sont quatre, je crois, un ou cinq, je ne sais plus, de France insoumise, se retrouvent exclus du groupe Nouvelle Donne de monsieur Onesta. Et comme ils ne sont pas en nombre suffisant, ils ne peuvent pas créer de groupe distinct qui leur permettent d'avoir un minimum de moyens. Donc crise du côté gauche de Mme Delga, côté gauche, qui, s'ils ne votent pas pour elle, elle est cuite, quoi. Hein, je veux dire, c'est une composante essentielle de sa majorité, quoi, hein. Donc on est dans une situation aujourd'hui, là, au plan régional, qui montre bien que, comme le disait Édouard Philippe, la poutre craque encore, c'est-à-dire que la recomposition politique n'est pas encore terminée, est en train de se faire, et qui va s'accélérer forcément avec les prochaines européennes, et qui fait, je le dis comme ça, hein, sans porter de jugement, qui fait que la présidence de Mme Delga est une présidence compliquée, car il faut qu'elle veille sur son côté gauche, qui n'est pas du tout, dans très bons termes, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi, avec le Parti socialiste tel qu'il est organisé, ou tente de s'organiser au plan national, et puis la fraction, disons, modérée, quoi, que représente bien son premier vice-président, Didier Courdoniou, qui regroupe les radicaux de gauche et les radicaux de droite maintenant, qui pourraient facilement s'élargir à l'UDI, parce qu'il y a des élus UDI qui aujourd'hui sont dans le groupe des Républicains à la région. Donc c'est un peu compliqué, mais ça montre que la géographie est en train de bouger, qu'il peut se passer des choses intéressantes dans les semaines qui viennent, en tout cas dans les mois qui viennent, après les prochaines européennes.
Et voilà donc, Michel, pourquoi tu t'étais dépaysé, comme on dit dans le monde judiciaire. Tu avais été voir beaucoup plus loin dans le 31 de cette 8e circonscription pour faire cette analyse. Bonne transition, puisque tout de suite après la pause, dans une troisième partie, nous retrouvons notre invité Didier Codorniou.